Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». L'idée, c'est vraiment, à travers des rencontres, des expériences de vie, permettre à celui qui ne voyage pas ou celui qui voyage de s'ouvrir à de nouvelles destinations, de nouveaux pays. Là, on se retrouve sur un festival, le festival du voyage, le Grand Bivouac à Albertville, où il y a chaque année une librairie, un salon du livre qui est organisé avec différents auteurs. Et sur le même stand que moi, où je signe un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Éloge du sourire », je rencontre Salomé. Salomé, l'âme voyageuse, Salomé Cronsac, Salomé, une jeune voyageuse, l'âme voyageuse, sur la couverture un oiseau, donc voilà, l'idée c'est vraiment de te rencontrer, Salomé, donc tu nous parleras dans cette émission de ton bouquin, mais plutôt de toi, parce que je crois que ça fait déjà quelques années que tu voyages, donc comment tout ça a commencé, quand est-ce que tu as quitté pour la première fois la France et dans quelle destination tu es allée?
Alors, bonjour, j'ai quitté pour la première fois la France quand j'étais petite, ce que je reprends d'ailleurs dans le livre, quand je suis partie avec mon grand-père au Maroc, qui en fait avait l'habitude d'aller souvent là-bas dans le désert avec son 4x4 et qui m'a emmenée, qui m'a un peu ouvert au monde du voyage comme ça, à d'autres cultures, d'autres rencontres. Et depuis, en fait, l'idée ne m'a pas vraiment quittée. Et quand, c'est vrai que quand j'ai grandi et que j'étais adolescente, j'étais beaucoup dans la nostalgie de l'enfance et je ne me retrouvais pas trop dans les chemins un peu tracés. Oui, tu vas faire des études, tout ça. Donc ça m'est vachement resté... dans la tête, et ensuite à 18 ans je suis partie moi-même en Norvège, ce qui n'a rien à voir avec le Maroc, mais voilà, j'ai voulu faire des régions un peu opposées et voir ce qui se trouvait là-bas et voir qui j'étais en fait dans différentes parties du monde. Est-ce que je réagissais pareil, est-ce que j'étais la même personne, est-ce que j'avais les mêmes réflexions, tout ce genre de quête un peu initiatique envers moi-même, c'était très important pour moi parce que j'étais pas mal paumée, non pas que je me sois particulièrement trouvée, mais justement maintenant j'aime cette idée de pas me trouver en fait et de me redécouvrir chaque fois.
Donc le premier voyage à 16 ans, hein, tu pars au Maroc, qu'est-ce qui te reste de cette époque? Est-ce que tu as encore des images de cette première, de cette arrivée, je sais pas, à Marrakech, à Rabat ou à Casa, je sais pas comment ça s'est passé?
En fait j'étais petite, la première fois que je suis allée au Maroc, vraiment j'avais 6-7 ans. Mais j'ai des images, oui, j'ai des images très fortes. La première fois où je vais dans le désert, les dunes, enfin l'immensité, t'as 6 ans, t'as 7 ans, t'es minuscule, tu... T'as jamais vu ça, c'est comme un conte, t'es dans un conte qu'on te raconte avant de t'endormir. Et puis aussi, à l'inverse, des scènes un peu différentes, violentes, que je comprends pas forcément. Je vois deux enfants de mon âge qui ont 6-7 ans, qui en arrivent en voiture, qui mettent leurs mains dans les voitures parce qu'ils veulent quelque chose, ou qui, tu sais, ouvrent la portière pour prendre ce qu'on a dans la voiture. À 6-7 ans, tu comprends pas forcément, mais tu vois que... T'es enfant comme eux, mais ils n'ont pas la même enfance. Enfin, du coup, ouais, ça, c'est des images qui m'ont pas mal marqué. Et en fait, je suis pas retournée au Maroc pendant longtemps. En fait, c'est vraiment mon enfance qui m'a marqué. Et quand j'ai grandi, j'avais toutes ces images qui me restaient à la tête, mais j'avais pas forcément envie de revenir dans ce pays. J'avais envie de juste voir qui j'allais être ailleurs et de me faire des nouvelles images justement, qui n'étaient pas que basées sur la nostalgie, l'enfance, mais un truc nouveau.
Salomé, tu écris. À quel moment tu as commencé à écrire? Déjà là, à 6-7 ans, tu étais déjà avec des crayons, oui, de couleurs. Voilà. Parle-moi un peu de cette partie-là, parce que je crois que ça t'habite complètement, mm-hmm. L'écriture.
Oui, l'écriture, c'est dès que j'ai pu écrire, j'ai écrit. Et justement, chez mon grand-père, il avait un grand bureau où j'adorais m'installer. Et à chaque fois, j'écrivais tout et n'importe quoi. Je venais d'avoir un chat quand j'étais petite, j'avais écrit l'histoire de mon chat. Enfin, tout était des sujets d'écriture, et d'ailleurs, tous les toujours, mais ouais, c'est assez compulsif l'écriture chez moi et je trouve que ça s'allie très bien avec le voyage parce que justement dès que tu rentres, tu vas dans un nouveau monde, tu vois une nouvelle scène, des nouvelles personnes, des nouveaux habits, des nouvelles langues, enfin tout est sujet d'inspiration et donc j'ai juste toujours écrit et le voyage m'a encore plus poussé à trouver de nouvelles manières d'écrire, écrire sur cette chose-là et voilà donc...
Pourquoi tu écris? Est-ce que tu arrives à me l'expliquer? D'où ça vient? Pourquoi ça sort de toi comme ça?
Alors c'est très simple, pour moi écrire c'est vraiment vivre dans le sens où j'ai pas trouvé de manière, de meilleure manière si ce n'est d'écrire que d'être présente dans le moment. Parce que quand tu écris tu te poses, enfin moi j'écris beaucoup sur ce qui se passe autour de moi donc ça me pousse à vraiment être là dans le moment, à regarder ce qui se passe et vraiment à m'ancrer dans la scène. En même temps, j'y prends pas forcément part puisque je suis pas en action en fait, je suis vraiment observatrice, mais je suis là en fait, je suis dans le silence, je suis vraiment dans moi-même et ouais, juste je décris le réel en fait et où justement j'essaie de comprendre qu'est-ce qui est réel ou pas, de mettre tout ce que je vois de subtil sur du papier, sur de la matière, et donc pour moi c'est juste vraiment la vie.
Donc une manière d'offrir ta présence au monde, en étant juste là, en témoignant avec les mots que tu poses sur du papier de ce qui se passe autour de toi.
Oui.
Et ça m'interpelle parce qu'on est quand même dans une... Enfin, tu fais partie de cette génération connectée, hein, où aujourd'hui, enfin, tous les enfants ou tous les ados, tu en fais partie. On a très vite, très tôt, eu dans les mains une tablette, un ordinateur, un écran. Et souvent, l'attention que va nous capter nos écrans va prendre le dessus sur tout le reste de nos activités. Toi, non, tu n'as jamais été happé par justement la puissance des écrans. Tu as toujours réussi à cultiver ce don d'écriture, prendre ce temps, parce que finalement, on est dans un monde où on est pressé. Et je trouve que prendre le temps d'écrire, c'est prendre du temps.
En fait, je suis d'accord. Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc que les gens aiment bien répéter ça, que voilà, nouvelle génération, les écrans, personne ne prend le temps. Et je trouve que c'est très vite devenu une bonne critique au début. C'est très vite devenu un cliché aussi. En fait, peu importe ce qu'on fait, les écrans, tout ça, de base, c'est qui on est qui compte. Donc, je veux dire, moi, je suis comme tout le monde, j'ai Instagram, ceci, cela. Peu importe, ça me stimule, en fait. Je vois des images, je peux écrire sur mon téléphone, je partage. Enfin, il n'y a pas que le côté négatif. Alors, il y en a, hein, y a beaucoup. Mais je trouve qu'on a tendance à généraliser, beaucoup d'ailleurs, ma génération, du fait que, oui, on ne connaît plus les échanges, tout ça. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Ça, c'est ce que les gens voient. Mais tu prends le temps de parler 2 minutes avec les gens. À la fin de la journée, tu peux demander à tous les ados, tous les jeunes adultes de ce monde-là, ils te racontent pas Instagram, ils te racontent leur vie de tous les jours, moi, mes amis, moi, ce que j'ai ressenti, moi, j'aimerais faire ça. Enfin, tous les gens ont quand même des rêves. Les écrans ne sont pas vraiment. Ne limitent pas tout. Et au contraire, je trouve que ça peut vraiment te stimuler la créativité si tu sais t'en servir. Donc, moi, pour le coup, ça me limite pas. C'est aussi une source d'inspiration. Après, j'y suis pas tous les 4 matins sur les écrans, mais. Mais ça m'a pas empêché d'écrire, quoi. Mais j'écris sur le téléphone, sur le papier, sur tout où je peux écrire, j'écris.
Tu es lectrice aussi ?
Ouais, je lis moins que j'écris parce que malheureusement, on n'a pas assez d'heures dans la journée. Donc, je dois faire des choix. Mais ouais, je lis pas mal, mais j'écris davantage quand même.
Donc, je vois en toi deux choses, hein, la plume, l'écriture, mais aussi le voyage. Hein, c'est un peu les deux choses qui t'habitent, si je comprends bien. Donc, le voyage qui a commencé relativement jeune grâce à ton grand-père qui t'a emmené dans cette partie du monde, hein, qui est l'Afrique du Nord, donc le Maroc notamment. Tu me dis, à 18 ans, je pars en Norvège, c'est ça, Norvège ?
Ouais.
Norvège, hein. Norvège. Donc, t'attendais 18 ans pour pouvoir partir toute seule, ou c'était quoi l'idée ?
Oui, c'était le... J'attendais, j'étais très pressée. En fait, l'idée, c'est que, si tu veux, quand j'avais 16 ans, et que j'étais toute dans cette réflexion, tiens, je ferais bien ma vie en voyage, en fait. À mes 16 ans, je suis partie d'abord en Suède, dans un truc organisé, tout ça, avec comme une espèce de colo, en fait. Et c'est parce que je m'ennuyais, l'été arrivé, j'avais rien à faire, je me suis dit, la Suède, en été, il pleut, c'est bizarre, ok, ça va me changer les idées. Voilà, et j'ai vachement accroché avec ce pays-là. Et je me suis dit, à mes 18 ans, je veux partir seule. J'ai jamais fait ça, je suis une fille, tout le monde dit, c'est dangereux, ceci, cela. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de remarques et d'avertissements et beaucoup d'angoisse de la famille. Je me suis dit, la Norvège, c'est l'Europe, je connais la Suède. Et je me sentais en sécurité d'aller là-bas. Et j'étais vraiment dans une optique de faire quelque chose en nature, avec vraiment moi-même. J'étais pas encore vraiment tournée vers l'autre. Enfin, j'avais vécu des années au lycée un peu renfermée. Donc, je me sentais pas d'aller quelque part et de rencontrer plein de gens. Je voulais vraiment d'abord être avec moi-même, me poser des questions sur moi et d'être dans mon truc un peu sauvage. Et je lisais pas mal de trucs, pas mal de livres. Je regardais pas mal de films un peu sur ces sujets-là, avec des héros un peu... marginaux qui faisaient leur truc solo. Et donc j'ai choisi la Norvège parce que ça me paraissait assez nature pour faire ça.
Mais avec un cadre quand même ? Tu es partie avec un organisme ou...
Je suis partie toute seule, juste j'ai organisé mes trucs, je suis partie en train parce que je voulais pas prendre l'avion, tout ça. Donc j'ai rallié tous mes trains de Bordeaux jusqu'à Oslo. Et puis après, j'avais pris ma tente, j'avais demandé à mon père de me passer 2-3 trucs de matériel parce qu'il aime bien aussi la rando. Donc voilà, j'ai un peu rassemblé tout ce dont j'avais besoin et je suis partie. J'ai fait bon, on verra bien. Finalement, c'était assez fort. Et en fait, quand je suis rentrée, je savais pas trop si ce que j'allais faire, en fait. Et juste quand je suis rentrée, ça m'est paru évident que j'allais repartir. Et pour le coup, en fait, j'avais vu l'Europe du Nord, moi en solitaire. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai envie de voir un truc qui me dépayse vraiment et de voir du monde. Et donc, je suis partie en Asie où je me suis dit, bah là, pour le coup, je vais rencontrer des gens. Enfin, je vais pas aller m'enfermer dans une forêt. Et toujours l'Asie, parce que enfin, j'avais toujours cette inquiétude de quand même, je suis jeune. Et surtout, je suis une fille. Genre, ça, c'est vraiment revenu que j'avais vraiment l'inquiétude d'être, d'être une femme, tout ça. Et voilà, j'avais eu des échos que l'Asie, c'était... on se sentait en sécurité. Ça s'est vraiment fait comme ça. Je me suis dit, ok, c'est une bonne région du monde pour essayer quelque chose de nouveau.
Avant de parler de ton voyage en Asie, tu arrêtes tes études alors ou tu fais quoi à ce moment-là quand tu reviens de ton été en Norvège ?
En fait, j'ai juste pas commencé mes études. Et c'était assez clair que j'allais pas les commencer. Après, je laissais ça un peu sous-entendu. Je disais, oui, bon, je pars les 2 mois d'été comme ça à la rentrée et on verra. Peut-être que. Oui, je ferai des études. Bon, dans ma tête, je savais que ça n'allait pas vraiment mener là-dessus. Mais du coup, bon, quand je suis rentrée, après, mes parents ont pris confiance. Ils ont vu que je n'étais pas morte. Ils ont vu que je m'étais débrouillée. Ils ont vu que ça m'avait vachement fait grandir et cogiter. Et qu'en fait, c'était une part de qui j'étais. Donc, ils ont vraiment commencé à accepter le truc. Donc, naturellement, en fait, quand j'ai dit, bon, je repars, ça a été beaucoup plus entendu. C'était plus naturel. C'était là. C'était oui, bon, bah oui, forcément, oui. Donc, juste, je vais pas commencer les études.
Donc, ils t'ont fait confiance, ils t'ont laissé partir et repartir en Asie. Se pose la question, quand on est jeune, on n'a pas forcément d'argent. Comment tu fais, toi, pour partir et voyager ?
En fait, j'avais... je suis pas repartie de suite. Je suis repartie en novembre, il me semble. Donc, depuis mon retour jusqu'à que je reparte, bah, tout simplement, j'ai travaillé. Et après, je suis pas partie avec beaucoup d'économies, mais en même temps, je n'avais pas vraiment besoin parce que l'Asie, c'est pas très cher. Et puis, la manière dont je voyage, je dépense vraiment quasi rien. En tout cas, beaucoup moins que quand je passe ma vie à Bordeaux avec une coloc, les courses, tout ça. Mais en tout cas, oui, voilà, depuis mon retour jusqu'à mon prochain départ, j'avais tout simplement travaillé. Et maintenant, je me débrouille un peu mieux dans le sens où je trouve du travail dans la destination où je suis. Donc, ça m'évite de rentrer juste pour travailler. Mais à l'époque, voilà, c'était ça. J'étais rentrée, j'avais trouvé un petit travail et voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Qu'est-ce que c'est que pour toi voyager ? Qu'est-ce qui fait que tu aies cette envie d'être en mouvement ?
Bah, même réponse que pour l'écriture, c'est la vie. Enfin, pour moi, c'est pas... je veux dire, même là, on se retrouve à Albertville, pour moi, c'est un voyage. Tu vois, même quand je rentre sur Bordeaux, enfin... Vraiment, pour moi, voyager, c'est très simple. C'est aller quelque part et observer ce qui se passe là où tu es. Et voilà, de voir comment sont les gens, de quoi ça parle ici, leur façon de faire, comment ils vivent, et moi, qui je suis dans ce nouvel environnement, comment moi, est-ce que je me comporte ? Est-ce que je ressens la même chose quand je suis à Bordeaux dans ma ville où je connais les rues ? Ou ici, avec ces personnes, est-ce que je me sens à l'aise ? Pourquoi est-ce que je me sens pas à l'aise ? Enfin, pour moi, voyager, c'est vraiment un truc... introspectif où t'es dans le pays mais surtout dans toi-même et t'es vraiment en cogitation tout le temps et de dire ok je comprends pas et ça c'est important vraiment pour moi voyager c'est ne pas comprendre c'est vraiment pas je suis pas dans un truc où je cherche quelque chose et j'ai envie d'avoir des leçons ou d'avoir une révélation sur ma vie ou quoi pour moi c'est vraiment de rester dans le dépaysement dans l'incompréhension et en fait d'être dans cet état de confus en fait. Je trouve que le voyage c'est beaucoup de confusion et de réadaptation et de te réinventer et de pas rester fixe dans une idée, dans une certitude que t'as de toi-même. Voilà, moi je sais pas, je voyage au Maroc, je sais comment ça marche. Non, moi j'ai pas envie de savoir comment ça marche, j'ai envie d'être surprise, j'ai envie de pas être forcément confortable et de m'ajuster aux situations.
Ouais, cette notion de complètement aussi déconstruire ses propres croyances pour en assimiler d'autres et de se rendre compte que finalement la vérité, bah, chacun a la sienne, mais qu'est-ce que c'est que réellement, quel est le juste, quel est le bon chemin ?
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est raconté dans le livre, mais au début, j'étais vraiment partie dans l'idée de... je me sentais vraiment oppressée dans la société. Je me disais, franchement, la vie, si c'est ça, j'en veux pas. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas ça la vie. Et donc, je suis partie avec l'idée de justement me dire qu'est-ce que c'est la vie. Donc, il y avait quand même une quête qui a commencé. Et j'avais vraiment l'idée qui me tenait à cœur de comprendre qui je suis et comprendre comment j'ai envie de vivre tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, tout a volé en éclats. Je me suis complètement, j'ai complètement lâché ce besoin de savoir et de comprendre parce que je me suis dit, mais en fait, non, genre. Ce qui me pousse à continuer de voyager, c'est justement de déconditionner, de déconstruire. Et à chaque fois que j'oublie quelque chose sur moi, c'est pas pour aller récupérer une nouvelle certitude et me dire « Ah oui, maintenant j'ai compris ça ». C'est juste de me dire « Ok, j'ai plus ça en moi et je veux plus récupérer autre chose. Juste, je reste vide et je vois ce qui arrive. » Et ce qui arrive, c'est juste le moment. C'est les gens qui sont là en face de toi. Ce que tu vois, ce que tu décris, c'est pour ça que j'écris. C'est qu'à chaque jour, une nouvelle écriture et... Il y a quelque chose que, de nouveau que tu t'assimiles, mais pas pour le garder, et pas pour que ça te limite, et pas pour que ça t'enferme dans un truc, juste le garder en toi comme un beau souvenir, tout ça, mais c'est tout, t'es détaché en fait. Donc pour moi, c'est vraiment ça le voyage. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living.
Salomé, tu es jeune, tu as 21 ans. Tu me disais, voilà, premier voyage seul à 18 ans dans les pays nordiques. Ensuite, tu prends la route plutôt vers l'Asie. Ouais. Pays nordiques, c'était en train parce que tu voulais éviter l'avion. Je pense que l'Asie, c'était peut-être plus compliqué d'éviter l'avion pour pouvoir aller là-bas. L'Asie peuplée, donc il y a cette envie. Donc voilà, la Norvège, c'était plutôt le côté immersif dans la nature. L'Asie, donc plutôt les rencontres. Ou, comment tu voyages finalement? Est-ce que tu vas vraiment te frotter à l'autre ou tu vas plutôt être dans l'observation de l'autre ou...
Au jour le jour, j'essaye vraiment de pas prévoir parce que je sais pas, demain je serai peut-être d'une humeur comme ci ou comme ça, j'en sais rien, je suis assez instable émotionnellement donc je préfère ne pas prévoir. Mais si tu veux, une journée type, enfin, ça a beaucoup changé parce que je suis partie 6 mois. Forcément, quand j'arrive, j'étais perdue, J'avais beaucoup de peur, je marchais dans la rue, il y avait du monde partout, des gens qui ne me ressemblent pas, des gens qui parlent d'une langue différente, des gens qui se pressent, qui me bousculent, enfin je veux dire, même à Paris t'es bousculé, mais enfin c'est pas pareil, tu vois, c'est Paris, d'accord, tu connais quand même. Du coup, au début, enfin, je me frottais pas trop aux autres, enfin, ou alors c'est eux qui se frottaient à moi sans que je le voulais. J'arrive à Phnom Penh au Cambodge, ouais. Et donc au début, je suis vraiment beaucoup dans l'observation, puis de toute manière, enfin, toujours avec cette idée d'écrire, donc je me pose beaucoup pour écrire et être dans l'observation. Et c'est vraiment venu au fur et à mesure, mais difficilement, que je vais vers l'autre et je m'ouvre. J'avais vraiment beaucoup, enfin, je parlais très mal l'anglais, donc c'était super compliqué pour moi d'aller vers les autres. J'avais vraiment pas mal de timidité. J'avais pas été très sociable pendant toute mon adolescence, donc j'étais plutôt renfermée. Donc ça a été vraiment un travail de grosse déconstruction de me dire, bon, ici t'es personne, personne te connaît, t'es plus la lycéenne, ceci, cela, tu peux être qui tu veux, qu'est-ce qui t'empêche d'aller parler à quelqu'un en fait? Et puis si ça marche pas, bah au pire, demain tu changes de destination, tu la reverras jamais, donc tu t'en fous. Et donc il y a vraiment un lâcher prise qui s'est fait au fur et à mesure, et donc oui, au fur et à mesure je suis allée me frotter au quotidien des personnes, j'ai commencé à faire des expériences de volontariat parce que j'avais l'envie d'être dans des maisons avec des gens et de partager plus que de faire que du passage et de jamais créer des liens. Donc après voilà, je me suis fait un ami vietnamien qui m'a traîné un peu à droite à gauche dans sa famille et dans différentes communautés qu'il avait envie de me montrer tout ça. Mais ça a pris du temps, c'est pas je suis arrivée et puis soudainement... Parce que c'est ça aussi, c'est vraiment un truc que je vois dans les récits de voyage, pour en lire quelques-uns, mais on idéalise beaucoup le voyage, oui, le voyage c'est les rencontres, et c'est la vie, c'est les leçons, c'est la révélation, tout ça. C'est pas vrai, moi le voyage ça a été beaucoup de désillusions, de déceptions, de peur, de me dire ah oui en fait j'ai peur de tout, je suis capable de rien. Bon, et après j'ai repris confiance en moi, mais de me dire... Enfin, dans le livre, je tiens vraiment à défendre l'idée que le voyage, c'est pas que un truc super où t'arrives et tu rencontres plein de gens et les gens sont super gentils et puis ils sont prêts à t'aider. Et puis tu vois, en France, on est tous des cons alors que tu vas là-bas et puis tout le monde t'invite à manger. C'est vrai, ça se fait plus, mais c'est une culture aussi. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, j'ai rencontré des gens, tout comme en France, qui n'ont pas été sympas avec moi, où je me suis sentie super mal à l'aise. Et il y a tout, en fait. C'est juste... J'ai pas envie de distinguer ton quotidien et le voyage. J'essaye de vraiment intégrer les deux mondes et de confondre tout ça.
Alors pourquoi les gens idéalisent le voyage? Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup là-dedans, cette notion de voyager pour grandir, pour se rencontrer, pour se découvrir.
Peut-être parce que c'est moins commun. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a beaucoup de gens qui voyagent, mais de manière générale, il y a plus de gens qui sont au travail tous les jours, 8h, 18h, chez eux, dans leur maison avec leurs enfants. Donc peut-être, je sais pas, c'est un fantasme, c'est comme tout ce que tu connais pas, je suppose que tu le fantasmes. Après, je pense aussi que c'est juste un effet tendance, mode, publicité, média. Voilà, enfin, dès qu'on peut parler de quelque chose et en faire du business autour de ça, avec le tourisme, tout ça, enfin, forcément, les catalogues de voyage, ils vont pas te montrer l'envers de l'Inde, ou je sais pas, ils vont te montrer des temples magnifiques, et puis toi, tu vas arriver, en fait, il y a la queue de 3000 touristes, tu vas dire « Ah oui !» Ah, c'est pas pareil. Mais oui, je pense que c'est juste... je pense qu'on a juste tendance à idéaliser tant qu'on connaît pas. Et puis... Et moi, je trouve ça beau aussi, parce que tu te fais une image et puis après, tu pars et tu vas casser ton image.
Tu parlais aussi de travailler en voyageant, de faire du volontariat. Je veux bien que tu nous expliques un petit peu comment tu t'y es pris. Ça peut intéresser pas mal de gens qui ont peut-être eux aussi envie de faire de travailler à l'étranger. Je sais qu'il y a le woofing, il y a le workaway. Donc, quelle a été, toi, ta méthode?
Workaway. Vraiment, ça, c'est... Au début, c'est une voyageuse que quand je suis arrivée au Cambodge qui m'a parlé de ça. Et du coup, bah, tout simplement, je suis allée sur l'application. Voilà, j'ai trouvé 2-3 projets. Et puis, donc là, pendant tout le voyage de l'Asie, j'ai fait du volontariat sans travailler, donc non rémunéré. Mais c'était pas l'idée, de toute manière. Enfin, c'était pas vraiment pour l'argent, c'était ou pour ne pas dépenser, même si ça m'a aidé à pas dépenser pour le coup. Mais c'était vraiment l'idée d'être dans la vie de quelqu'un, de voir comment ça se passait. Et c'est assez récent que j'arrive à travailler. En voyageant, enfin notamment après dans le livre aussi j'en parle, mais après je suis plutôt partie voyager vers l'Amérique et là bon, c'est assez facile de trouver du travail à droite à gauche et dans des trucs un peu improbables et inédits et c'est rigolo. Et donc maintenant je suis plus orientée là-dedans, mais parce que aussi je grandis et que maintenant enfin je suis un peu j'ai plus vraiment le soutien financier de mes parents, enfin je prends mon indépendance, donc la question se pose plus maintenant de travailler que avant où l'Asie, voilà, quand je suis partie à 18 ans, c'est vrai que la famille était un peu inquiète à mon anniversaire, enfin tout le monde m'a donné des sous, tout ça, enfin J'avais moins la notion de l'argent à l'esprit. Et là, c'est sûr que maintenant, je vis ma vie, je gère ma vie. Enfin, oui, je réfléchis à comment gagner de l'argent. D'où pourquoi aussi la publication de ce livre. Mais ouais.
On va en parler du bouquin, mais je continue quand même cette notion. Donc, tu me disais, très jeune, t'es parti voyager sans faire d'études. Tu te vois revenir étudier quelque chose ou tu veux continuer à voyager? Quelle est la suite que tu as envie de donner à ton existence?
Alors, je me vois étudier si on peut étudier que 6 mois sur différents sujets. Donc non, je me vois pas étudier vraiment 5 ans sur un sujet spécifique sur des bancs, dans un endroit toujours le même avec des horaires fixes. Après, j'adore apprendre et j'étudie à ma manière en fait. Je fais beaucoup de recherches, je parle avec beaucoup de gens sur l'histoire. Puis j'ai pas mal d'amis en études, enfin ma meilleure amie est en études d'histoire, donc je lui demande aussi pas mal de choses. Mais non, je me vois pas repartir dans les études, tout simplement parce que, pas parce que c'est inutile ou quoi, mais juste que ça me correspond pas en fait. Enfin, j'ai pas envie d'avoir un planning, j'aime créer mon propre planning tous les jours. Et puis je trouve pas que ça me limite en fait de pas faire d'études. C'est vrai qu'il y avait vraiment une peur au début de me dire, bon je pars... Tout le monde dit que c'est une lubie, ça va me passer. Après, qu'est-ce que je vais faire quand je vais revenir et que j'aurai pas de diplôme, j'aurai pas ceci, j'aurai pas cela? Bah, en fait, plein de choses. En fait, tu peux publier un livre déjà. Et de deux, tu peux trouver du travail qui t'intéresse à droite à gauche, tu peux faire des saisons. Si ça marche pas, bah, tu pars dans un autre pays et puis tu travailles dans un autre pays. Enfin, il y a 3000 portes ouvertes et c'est pas parce que toi, t'es dans ta. Enfin, pas toi, toi, mais. C'est pas parce que la personne est dans sa réalité où les choses fonctionnent comme ça et oui, tu verras quand tu grandiras. Oui, peut-être, je verrai. Au pire, je me réadapterai, mais. Là, en l'occurrence, je me sens bien partie pour continuer, pour pas trop changer ma vie, je l'aime bien comme ça, et continuer un peu sur le même chemin, et puis développer des projets. Voilà, si je peux développer pas mal de projets d'écriture, ça me ferait plaisir. Après, bon, j'entends tout le monde, notamment au festival du Grand Bivouac, qu'on dit qu'on ne vit pas de nos livres. J'entends. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de réalisme, je suis pas dans un monde d'espoir et d'émerveillement, mais on verra.
Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconte les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Dans les avions en papier ne partent plus au vent. On se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des petits culs s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes.
Donc sur la table, ce bouquin, L'âme voyageuse, je redonne ton nom, Salomé Cransac, de quoi il parle quand on va ouvrir le livre, quand on va tourner les pages? Est-ce que c'est simplement le récit de ce que tu as pu observer, ce que tu as voulu romancer? Comment est-ce que tu t'y es prise pour écrire tout ça? Voilà, qu'est-ce que le lecteur va retrouver à l'intérieur? Et si tu devais parler des grands messages ou des grandes lignes que tu aimerais pouvoir partager?
Alors, quand on va ouvrir le livre, on va être plongé dans mon esprit, ce qui peut être un peu déroutant plus que de savoir ce qui se passe dans le pays. Mais non, en fait, l'idée, c'est que il va vraiment avoir un truc de réflexion, d'introspection, et on va être plongé dans mes sentiments, en fait, dans ce que j'ai ressenti. C'est pas vraiment un livre qui va décrire comment est le Cambodge ou comment est le Vietnam, mais plus comment moi je suis dans ces pays-là. Et dans des réflexions que je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver avec des doutes, des angoisses, beaucoup de désillusions aussi. Genre ça, j'en parle vraiment beaucoup, de te remettre, enfin, casser tes illusions pour vraiment accepter ce qui est et voir ce qui est là maintenant. Donc en fait, oui, c'est tout le temps de l'observation avec des réflexions autour de ça. Enfin, j'aime beaucoup réfléchir. Je pense que pour écrire, il faut être apte à réfléchir sur beaucoup de sujets. Donc, il y a pas mal de pensées philosophiques, si on peut dire ça comme ça. Enfin, de remise en question perpétuelle. Et voilà, je pense que c'est un peu l'idée. Il y a aussi beaucoup de poésie parce que j'adore la poésie et que, enfin, le fait d'observer tout, c'est surtout aussi pour remarquer en fait toute la beauté des scènes, des gens, leur manière de faire tout ça, donc on peut vraiment se plonger dans une scène et je suis très visuelle, donc en fait j'ai essayé d'écrire comme si, je sais pas, comme si on était dans un film en fait, ou un documentaire et qu'on suit des gens, enfin voilà, il y a des passants, hop, la fumée de cigarette, ok, ça me fait penser à quelque chose, et puis voilà, tout passe de réflexion en image et donc...
On rentre vraiment dans ta tête et on vit tes émotions avec toi.
Ouais, oui, voilà, l'idée c'est que je voulais pas faire, enfin de toute façon j'aurais pas pu faire ça parce que j'en sais rien, mais je voulais pas faire un truc, voilà, le voyage c'est ça, et puis je vous en parle de manière abstraite. J'en sais rien, moi, de qu'est-ce que le voyage, c'est subjectif à tout le monde, enfin, voilà, donc j'ai fait un truc de moi, mon opinion, ce jour-là c'est ça, demain c'est ça, et après-demain c'est ça, et sur les 6 mois, bah voilà, vous avez tout, et puis sur les 4 ans de ma vie, voilà, vous avez tout qui est là. Et du coup, c'est un peu... Et puis je trouve que c'est des âges intéressants où j'ai écrit, parce que du coup j'ai commencé à faire le livre à 16 ans, je l'ai fini à 20 ans. Je dis pas qu'on change pas après plus tard dans sa vie, mais je pense que dans ces années-là on change beaucoup. Donc c'est tout un voyage de aussi de grandir en fait, c'est de maturité qui s'est fait. Et... Donc oui, c'est vraiment être plongé sur les traces de quelqu'un, enfin en l'occurrence moi, sur mes pas et de suivre un peu mon histoire à travers moi, mais tout en pouvant se reconnaître parce que voilà, enfin, je suis pas différente des autres, on a tous les mêmes problématiques, on a tous les mêmes peurs. Je veux dire, t'es une fille de 17 ans qui lit mon livre, bon bah oui, tu vas te sentir concernée, et même si t'es un garçon, bah tu te sentiras concernée parce que les études, parce que la pression des parents, parce que la pression de la société, voilà, ou même des réflexions que j'ai en voyage, où je sais pas, je vois, je suis confrontée à des zones plus pauvres que chez moi, ou à des zones où les cultures sont pas les mêmes, la religion n'est pas la même chose, enfin. Je pense que tout Occident, tout Français peut se reconnaître dans mes interrogations. C'est des trucs qu'on partage. Enfin, il y a rien de vraiment différent. C'est juste que je pose les mots dessus avec ma manière de faire. Et ça, je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens.
Tu parles de désillusions. Donc, quelles étaient, je sais pas, peut-être les projections que tu as pu avoir et où tu t'es planté, où tu te rends compte que des fois, on est peut-être malgré nous, impacté par la pensée ambiante, par les croyances qu'on nourrit, ou par les médias, ou par les réseaux, ou par tout ce qu'on va entendre.
Bah moi, si tu veux, je suis partie en voyage avec l'idée que le voyage allait être une révélation, que quand j'allais partir, j'allais être moi-même, j'allais trouver le sens de la vie, et puis voilà, je serais plus dans cette société... capitaliste, oppressive, ce que tu veux. Enfin, j'étais vraiment, le voyage, c'est la solution. Et puis bon, je suis arrivée, et puis j'ai vu qu'en fait, en Asie, bah... Enfin, en Asie ou ailleurs, mais en l'occurrence, je suis arrivée en Asie, et puis j'ai vu que la société, elle était tout aussi, voire pire, de bien des manières, tout aussi oppressive et tout aussi cassée. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de grandes révélations. Ah oui, c'est bon, je me sens beaucoup mieux avec moi-même. Bah non, en fait, tous les jours, j'avais peur de ça. Tous les jours, j'étais timide. Tous les jours, j'avais des nouvelles réflexions qui m'encombraient l'esprit. Enfin, il y a vraiment eu une désillusion de me dire, en fait, je trouve pas ce que je suis venue chercher. Et après, je me suis dit, c'est après que, comme je disais, je me suis rendu compte que j'ai pas envie de trouver parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est chercher et que, in fine, je crois qu'il y a rien à trouver. Je pense qu'il y a juste à vivre et puis je sais pas s'il y a vraiment un sens. Et moi, j'aime me dire que sens ou pas, en fait, peu importe, tu vis ce qui arrive et tu te laisses porter. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une telle désillusion de me dire, je suis pas à ma place dans la société, donc je vais trouver ma place quand je voyage. Et en fait, il y a pas de place, c'est juste la place, elle est aléatoire. Ça dépend en fait. Enfin, pour plein de gens peut-être, mais pour moi en tout cas, il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas de révélation, de réalisation. En fait, c'est aujourd'hui, il se passe ça, je vais me sentir à ma place, et demain, bah peut-être pas. Et en fait, c'est au jour le jour, et c'est pas grave, et en fait, tout le monde s'en fiche, c'est pas grave. Genre, il faut arrêter de se faire des idées sur tout. Et donc moi, je suis vraiment dans un truc d'oublier mes idées. Et le voyage m'a beaucoup aidé à ça. C'est qu'à chaque fois que je bouge physiquement, je bouge aussi beaucoup dans mon esprit. Et donc de plus en plus, j'ai juste lâché l'idée que j'allais trouver quelque chose. Et maintenant, c'est là que je trouve des choses. C'est maintenant que je me dis « Ah oui, waouh, ça me parle !» Mais voilà, d'où les désillusions. C'est que je suis quand même tombée de haut en me disant « En fait, je me suis fait tout un film sur un monde fantasmé qui existe peut-être, mais pas tout le temps, et qui est partiel, et dont on parle trop. Je trouve que vraiment, les récits de voyage font vraiment l'apologie. De tout ce monde incroyable où tu te reconnectes avec toi-même et t'es vraiment dans ton intérieur, ceci, cela. Oui, alors certes, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est, parfois, tu sais, tu passes des journées en voyage, tu n'es pas du tout en toi, tu n'es pas du tout connecté à toi, tout le monde te bouscule, tu loupes tes bus, t'as des galères d'argent, enfin, tu sais, c'est la vie, genre, il n'y a pas de séparation, donc voilà.
Je veux bien qu'on revienne aussi sur une grande idée, un stéréotype, enfin une image qu'on a tous. Tu en as un peu parlé, voyager seule en étant une femme. Mmh. Voilà, donc tu l'as fait. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes les femmes qui ont envie, elles aussi, de partir voyager seule et qui entendent dans leur environnement proche, familial, c'est dangereux?
Alors, bon, déjà, je pense que ça dépend des zones. Enfin, je vais vraiment parler de mon expérience parce que je n'ai pas voyagé en tant que femme, je ne sais pas, en Inde, par exemple. Voilà, où on a fait. Oui, exactement. Je ne sais pas, voilà. Mais. Je pense que c'est pas forcément faux que c'est dangereux. Enfin, vraiment, vraiment, ça, à mon avis, ça peut l'être. Comme je sens que ça l'est quand je traîne dans Bordeaux. Et enfin, c'est sûr, je me suis fait accoster 3 milliards de fois. Voilà, tout le monde voit que. Enfin, là encore, récemment, j'étais au Maroc. Tout le monde voit que je suis une fille seule dans la rue. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, si j'avais voulu, j'aurais pu me marier 90 fois là pendant ce séjour. Tout le monde m'a proposé, oui, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te marier? Et voilà, des gens plutôt insistants. Et bon, après, tu apprends à gérer. En fait, tu apprends que c'est une culture, que c'est pas forcément une agression, c'est pas forcément méchant. Je sais qu'en ce moment, c'est tout le monde, voilà, c'est bien, mais tout le monde dénonce très vite du harcèlement, tout ça, c'est très bien, il faut faire ça, mais parfois aussi c'est des mœurs différentes, c'est des cultures différentes, et en fait il faut apprendre à naviguer avec. Donc avec le temps c'est plus facile, mais c'est vrai que quand je suis partie au début et que j'étais une femme et que tout le monde me disait mais ça va être dangereux, et que ma mère surtout était très angoissée à l'idée que je parte toute seule. Moi-même, en fait, j'avais tellement peur que je sais pas si ça existait vraiment, mais je voyais qu'on me regardait partout, et je sais pas si c'est moi qui me faisais des films ou si c'était vrai. Après, ce que je sais, c'est qu'en fait, les mois sont passés, et en fait, il m'est rien arrivé de. Il m'est arrivé des mauvaises expériences comme il m'est arrivé des mauvaises expériences partout. Je me suis pas sentie spécialement en insécurité. Je pense qu'il y a des manières de faire adapté et respecté un peu partout de manière générale. Si tu te sens pas à l'aise dans un endroit, les trucs un peu classiques, tu sors pas la nuit, tout ça, voilà. Mais c'est des choses en fait très instinctives. Une fois que t'es confronté à quelque chose qui te fait peur, tu sais réagir, et je vois pas pourquoi tu devrais te limiter en te disant il va m'arriver un truc donc je pars pas, parce qu'en fait quand il t'arrive un truc, tu sais faire, tu sais réagir, tu sais te protéger. Et bon, après voilà, si tu peux pas, tu peux pas, mais ça c'est la vie, c'est pas propre au voyage, c'est pas. Enfin, je veux dire, si tous les jours, t'es capable, en tant que femme, de prendre tes arrêts de métro et aller au travail, je vois pas en quoi c'est plus dangereux de prendre ton vélo et d'explorer quelque part au Vietnam, tu vois. Donc, je pense qu'il y a du danger comme partout, mais que c'est surmédiatisé, trop véhiculé. Pas pour rien, mais il y a un truc vraiment de prudence extrême qui n'est pas disproportionné pour moi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Il y a Il y a des fois une vision un peu, je sais pas comment l'appeler, New Age, mystique du voyage, où on entend dire qu'en fait tout est juste, tout arrive au bon moment, les rencontres sont magiques, les choses se mettent en place toutes seules. Est-ce que tu as aussi observé ça, toi, dans le voyage, le fait de des fois partir sans filet, de voir que le filet apparaît, que la bonne rencontre va arriver au bon moment pour tomber au bon endroit?
Alors, je l'ai observé et je veux surtout pas justement en faire un courant New Age, comme tu viens de dire. Je l'ai, bien sûr, plein de fois, je suis en galère ou plein de fois, j'ai une pensée le matin, tiens, j'aimerais bien cela, et puis ça arrive dans la journée et je me dis, waouh, la vie, c'est fou, quoi, avec un bon temps. Enfin, bien sûr, il y a des espèces de miracles, on va dire, qui se produisent tout le temps. Pour autant, j'ai pas envie d'en faire une certitude et de te dire, oui, le voyage, c'est que ça, une fois, comme je disais en fait, une fois que t'es proche de toi-même, tout arrive comme ça, et puis pour une bonne raison, et puis si t'arrives ça, c'est juste, ça t'apprend quelque chose. Non, en fait, parfois il t'arrive quelque chose, t'as rien en tirer, tu sais pas, ça a pas de sens, c'est absurde. Et alors, c'est pas grave. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Je sais pas si c'est pas un peu lié à la société que tout doit servir, tout doit avoir du sens ou quoi, mais il y a vraiment un truc de. Voilà, je veux pas qu'il m'arrive de mauvaises expériences, et s'il m'en arrive, il faut que ça me serve, il faut que... Mais il faut rien du tout, en fait. Oui, parfois, il m'est arrivé des trucs vraiment incroyables, et je me suis dit, waouh, la vie, c'est incroyable. Et puis parfois, bah, c'était des journées comme les autres, et ça m'allait très bien, enfin, au jour le jour, arrive ce qui arrive, mais... Après, c'est sûr que quand tu te mets... Mais en fait, moi, je pense que tout le courant... Toutes les choses de oui, il t'arrive des choses très fortes. C'est aussi dû, c'est très basé sur le réalisme, dans le sens où c'est très concret, c'est très logique. Si tu pars en voyage, que tu es dans un autre environnement, que tu trouves aux autres, et qu'en plus, tu n'es pas dans ta vie étriquée tous les jours, tu as les yeux grands ouverts, tu es là pour ça, forcément, tu vas remarquer des choses que tu n'avais pas remarquées quand tu es dans ta vie à Bordeaux. Enfin, parce que j'habite à Bordeaux. Donc forcément, tu vas te dire, ah oui, le voyage change ma vie. Mais c'est pas ça, c'est juste que tu as ouvert les yeux. Et moi, maintenant, quand je rentre à Bordeaux, j'ai plus besoin de voyager super loin pour rencontrer des gens incroyables et de faire des rencontres profondes. J'arrive à Bordeaux. Encore la dernière fois, j'étais au Jardin Public, c'est un parc à Bordeaux. Une femme parlait à côté de moi, elle m'a trop inspirée. J'ai voulu faire un poème, je lui ai donné. Il s'est passé une énorme rencontre que je dirais typique des voyages, parce que ça, pour moi, de base, ça n'arrive qu'en voyage. Et en fait, non, c'était un petit miracle du quotidien chez moi. Et voilà.
Tu arrives à cultiver cette magie à côté de soi, enfin autour de soi, juste parce qu'on est dans cette forme d'observation, de lâcher prise et de laisser passer ou de laisser arriver la magie à soi et pas forcément se mettre plein de barrières et plein de contraintes parce qu'on n'a pas le temps, parce que si, parce que ça. Le mouvement, donc j'ai compris que c'était important pour toi, hein, tu parles le mouvement, l'écriture, le voyage, cette notion de se sentir vivant. Et donc là maintenant, tu continueras à voyager, comment est-ce que tu vois les prochaines années par rapport à toi, mais aussi par rapport au système et au monde dans lequel on vit, parce que le voyage, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de changer en profondeur, ce qui est en train de se passer, notamment, tu me disais, dans ton premier voyage, tu as pris le train. Aujourd'hui, on nous parle tout le temps de l'impact de voyager, de l'impact de consommer, de l'impact de prendre l'avion. Donc voilà, comment toi, tu te positionnes par rapport à tes envies de voyage, comment tu vois la suite et comment est-ce que tu imagines le système tel qu'il est en train de se modifier?
Enfin, moi, oui, j'ai envie de continuer de voyager. Enfin, tout simplement parce que c'est une manière de vivre pour moi. Je pense que le voyage est super important dans nos sociétés actuelles parce que... Mais enfin, le voyage comme je l'entends, je dis pas le voyage, les vacances. Je dis le voyage dans le sens où, justement, cette observation, je trouve que ça t'apprend beaucoup sur le monde. Enfin, tu discutes avec des gens, tu vois comment la réalité est en dehors des médias. Tu disais tout à l'heure, les écrans, voilà, t'apprends... Enfin, c'est vrai que là, on est dans une époque de surinformation tout le temps. Je trouve que le voyage est vraiment nécessaire. Enfin, en tout temps, mais spécifiquement maintenant. Et pour tout ce qui est question d'impact, en fait, ça, pour moi, je vois pas pourquoi ce serait un frein de me dire, bon, bah, voilà, il y a des problèmes écologiques, je vais arrêter de voyager. Non, tu vas trouver des autres façons de voyager. Il y a toujours des manières de faire. Enfin, je veux dire, encore aujourd'hui, là, je parlais avec un couple qui est parti à pied du Portugal jusqu'en Turquie. Enfin, voilà, genre, tout est possible. Et on va pas se mettre des limites parce que il faut pas ceci, il faut pas cela, il faut pas prendre l'avion. Bon, déjà, enfin, il faut pas prendre l'avion. Sache que si les compagnies, si, enfin, je veux dire, on n'aurait pas Total, on n'aurait pas. C'est pas nous, il faut pas. C'est certes les actions individuelles comptent, mais c'est pas nous qui allons tout démanteler. C'est surtout les grandes entreprises quand elles auront changer que ça changera. Donc je vois pas l'intérêt d'aller culpabiliser 3 ans sur l'avion que t'as pris, même si évidemment dans l'idéal, moi j'essaye de l'éviter et de faire des trucs aussi différemment, mais pas que pour l'écologie, juste parce que c'est aussi une manière de voyager beaucoup plus profonde, de prendre le temps d'aller quelque part. Bref, je me suis un peu garée de sujet, mais, mais en tout cas, voilà, genre je pense que même malgré les enjeux écologiques, tout ça, c'est en fait justement, va voyager, va voir commencer ailleurs et va voir ce que tu peux faire. Peut-être que tu peux aider, peut-être que tu peux questionner le monde avec d'autres personnes, peut-être que tu peux ouvrir des esprits ou que toi te faire ouvrir l'esprit avec d'autres cultures. Qu'est-ce qu'ils pensent de la nature? Qu'est-ce que toi t'en penses? Enfin, je pense que actuellement, je pense que c'est très important de voyager, d'échanger sur tout ça et. Et en fait, justement, avec les réseaux, on est capable de savoir ce qui se passe n'importe où dans le monde. Mais va dans ce monde, justement, et va savoir ce qui se passe en vrai et cherchons des solutions tous ensemble. Et voilà, échanger. Et puis de toute façon, on n'est pas Dieu, on n'aura pas toutes les solutions, mais fais de ton mieux, quoi. Donc, ouais, moi, je pense que c'est pas un frein de... Faut y aller.
Tu me disais au début de cette interview que tu étais timide. Est-ce que tu as l'impression que le voyage, ça permet de soigner sa timidité?
Bon, alors déjà, soigner, c'est pas une maladie d'être timide, hein, ça peut être beaucoup un charme et très bien. Mais ouais, moi ça m'a vraiment ouvert complètement et j'ai pas eu le choix en fait. Enfin, quand tu pars seul, tout le monde m'avait dit oui, tu vas partir seul, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'ennuyer. Bon, déjà, c'était sûr que non parce que j'allais écrire. Mais en fait, c'est surtout que j'ai jamais été seule. J'ai dû galérer pour être seule. Vraiment, j'ai dû m'exiler. Il y a que en Norvège où là j'étais seule parce que bon, j'étais dans les forêts et c'était voulu. Mais en Asie ou en Amérique, enfin, j'ai jamais été seule en fait.
Moi, je suis un grand timide aussi. Et c'est vrai que le voyage, ça m'a tellement ouvert. Ouais. Enfin, t'as pas le choix. À un moment donné, t'as besoin de l'autre pour pouvoir savoir où acheter du pain, où acheter du riz, où manger, où aller. Enfin, voilà, on a vraiment besoin. Et si tu ne rentres pas en interaction avec l'autre, eh ben, t'avances pas. Tu restes sur place, tu tournes en rond. Et en fait, tu te rends compte que ben, l'autre, il est pas méchant. Il est là pour t'aider, souvent.
En fait, moi, ça m'a beaucoup ouvert. Et notamment en France. En fait, dans le sens où. D'être ailleurs, ça m'a... J'ai dû, comme tu viens de dire, demander ma route, demander pourquoi le bus n'est pas encore arrivé, est-ce que c'est normal. Voilà, donc j'ai dû aller vers les autres. Et j'ai pas forcément combattu ma timidité à ce moment-là, parce que les autres étaient quand même différents, donc les autres continuaient de me faire peur, tout ça. Et c'est quand je suis rentrée en France, en fait, du coup, je suis retournée dans ma zone de confort. Et là où en Asie, par exemple, je m'étais dit, bon, je suis moins timide, mais quand même, c'est dur... d'être rentrée en France avec tout le monde que je connais, je comprends la langue et tout, bah là je me sentais hyper libérée. Et du coup, en fait, j'ai fait ce changement en moi et donc c'est vrai que je me sens de moins en moins timide partout. Après, c'est pas vrai tous les jours. Enfin, comme je disais, là je rentre du Maroc. C'est vrai que quand tu traverses des quartiers, t'es la seule blanche, t'es la seule fille et tout le monde te regarde bizarre ou te propose des choses. Je pense que c'est aussi un peu naturel là, d'être timide pour le coup, mais c'est vrai que ouais, y a des trucs qui restent inconfortables, mais. C'est beau aussi en fait, enfin, je m'observe au jour le jour et je me dis « Ah ben tiens, je pensais que j'avais confiance en moi sur ça, et ben non !» Surprise.
Non, c'est l'âme voyageuse Salomé Cransac, merci à toi et puis bon grand bivouac, bon festival et à bientôt.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants. Partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant « Regarde ailleurs ».